1982, session du Père Marie-Dominique Philippe sur la charité, première conférence.
Alors nous allons commencer aujourd'hui le traité de la charité tel que saint Thomas le présente dans ce somme. Alors si vous voulez, avant d'entrer dans l'analyse du texte comme nous faisons, et c'est bon de le faire, il faut peut-être bien voir ce que représente ce traité dans la somme théologique de saint Thomas, et puis la manière dont saint Thomas le traite, pour mieux comprendre et ne pas nous scandaliser, parce que le scandale est toujours possible. Je dis ça, c'est parce que vous verrez comment certains ont pu se scandaliser dans la manière dont saint Thomas traite de la charité dans la somme. Il faut d'abord considérer que dans l'Écriture, l'ultime révélation sur le mystère de Dieu, c'est bien le mystère « Dieu est amour ». On pourrait dire que toute la révélation commence par la grande affirmation « Il est ». Et c'est saint Jean qui nous dit « Dieu est amour ». C'est pas Dieu qui dit lui-même « Il est amour ». »« Je suis amour ». Je n'ai jamais dit ça. C'est intéressant, du reste, de voir ces choses-là, parce que ça nous aide à mieux comprendre. Jésus, Dieu dit, Yahvé, il est. Je suis celui qui est. Il est, c'est comme ça qu'il se présente à Moïse. Et l'apôtre bien-aimé découvre, à travers l'agapétos, qui est le Christ, parce qu'il ne faut pas oublier, je crois que c'est très important, de voir que le mot « agapé » est entré dans l'Écriture, a été révélé dans l'Écriture par le Christ, par le bien-aimé. La première fois qu'on voit, c'est pas « agapé », c'est « agapétos ». Et je crois que c'est très important. Il faut être très sensible à la manière dont l'Esprit-Saint nous éduque, hein, parce qu'il a une pédagogie admirable. Alors, il faut bien souligner les tournants. Et le mot agapé, qui est devenu alors le mot, vous savez bien, regardez ce que le père Spic a écrit sur l'agapé. Alors ça vous impressionnera, n'est-ce pas ? Quatre gros volumes sur l'agapé. Alors là, il a tout dit, au point de vue. J'aime beaucoup le père Spic, alors je veux. Il a tout dit, il a ramassé tout. Chaque fois que le mot agapé, le nombre de fois, je l'ai lu, mais j'oublie tout de suite le nombre des chiffres, ça n'a pas d'importance, c'est facile à savoir. Le nombre de fois où c'est dit dans les synoptiques, le nombre de fois c'est mis dans saint Paul, le nombre de fois dans saint Jean. C'est intéressant de voir ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la première fois où agapé apparaît, c'est agapétos. Et pour le théologien, vous voyez, c'est très très important, parce que c'est le Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Alors pour vous, pour votre règle de vie, c'est très important, parce que c'est au fond ça qui est la lumière de toute votre règle de vie. C'est le Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Et toutes les complaisances impliquent justement toutes les exigences, vont jusqu'au bout de ce que représente cet agapétos. C'est la nouvelle alliance est avec l'agapétos, le bien-aimé. C'est l'alliance avec le bien-aimé. Vous voyez, ce n'est qu'ensuite qu'on parlera d'agapé, et ce n'est qu'ensuite qu'on dira « Dieu est amour ». C'est le Père qui, regardant son Fils, dit « agapétos ». Et c'est Jean qui, au terme, dit « Dieu est amour ». Alors, il y a là quelque chose qui, je crois, pour nous, est capital. C'est de voir que le mystère de l'être et le mystère de l'amour sont les deux pôles de toute l'Écriture, puisque ça regarde Dieu. Je suis, ça c'est très important, et Jésus l'a repris dans son évangile pour en montrer toute l'importance, je suis, et Dieu est amour. C'est intéressant parce que ça nous aide à mieux comprendre comment une philosophie réaliste part de l'être et tend à découvrir ce que c'est que l'amour. On peut dire que c'est toute la philosophie, vous voyez. C'est pas étonnant, si l'homme est créé à l'image de Dieu, chaque fois que Dieu se révèle à l'homme, il révèle à l'homme ce qu'il est. Ça ne peut pas être autrement. Et donc si les deux sommets de l'écriture sont « je suis » et « Dieu est amour », c'est intéressant de voir que, de fait, quand il s'agit d'une réflexion humaine, la réflexion la plus fondamentale, celle de l'Ancien Testament, on pourrait dire, la métaphysique de l'être, c'est la métaphysique de l'Ancien Testament, vous voyez, c'est la métaphysique de l'être, donc c'est la métaphysique fondamentale. Et ce qu'il y a d'ultime, ce sera l'éthique qui nous montrera que Dieu est amour, qui montrera que tout le problème de l'homme, tout le bonheur de l'homme, c'est d'aimer. C'est d'aimer le mieux possible. C'est d'aimer la façon la plus vraie qui soit. Et que toutes les tragédies de l'homme proviennent d'un mauvais amour. C'est ça, d'être mal aimé. Ou de mal aimer. Parce que les deux choses se tiennent. Et que font tout le drame de l'homme est là. Il est dans le cœur. C'est pas dans l'intelligence. L'homme n'est pas dramatique par l'intelligence. Il est dramatique par son cœur. Et c'est son cœur qui montre cela. C'est pas par son être qu'il est dramatique. C'est par son cœur. Alors, c'est intéressant de voir que toute la philosophie, parce que c'est un fait, même notre philosophie occidentale, a commencé par la recherche de l'être, et elle s'est terminée dans le drame. Nietzsche est un point terminal de notre philosophie occidentale, comme dit Heidegger, et je crois qu'il a un petit peu raison. C'est un point terminal. Après Nietzsche, il y a des reprises, mais c'est un point terminal. Alors c'est intéressant de voir que c'est l'être et l'aspect dramatique. Parce que je crois que si nous avons la foi, tout ce qui nous est donné dans l'Écriture doit nous aider à comprendre l'homme. Comme il nous révèle Dieu, il nous révèle l'homme. Et le philosophe, lui, la recherche philosophique n'a de sens, en dernier lieu, que quand elle est ordonnée à la foi. Elle a un sens pour elle-même, mais son sens plénier, c'est pour le croyant. Si vous êtes intelligent, c'est pour être croyant. Comprenez bien, vous n'êtes pas croyant pour être intelligent. Mais si vous êtes intelligent, c'est pour être croyant. Ça, c'est la vision de Dieu. Et si nous sommes intelligents, c'est pour que nous puissions mettre notre intelligence au service de Dieu. Et donc, tout cet effort de philosophie, même au milieu des luttes et des difficultés, des erreurs, c'est quand même très curieux de voir que toute cette philosophie occidentale, c'est de l'être au drame. Au drame du cœur de l'homme. Vous voyez, il n'y a pas de drame en Dieu. Il n'y a de drame que dans l'homme. En Dieu, il n'y a qu'amour. Et quand il y a l'amour, il n'y a plus de drame. C'est le beau soleil absolu, toute sa splendeur. Tandis que quand il n'y a plus suffisamment d'amour, alors immédiatement, il y a le repli sur soi, et c'est le drame. Ceci, c'est pour vous faire comprendre que, de fait, la révélation du mystère de Dieu amour, nous ne pouvons le saisir pleinement qu'en regardant le mystère de l'agapé, c'est-à-dire le mystère de la charité. C'est en découvrant ce qu'est la charité que nous découvrirons progressivement que Dieu est amour. Vous savez bien, beaucoup de théologiens, et ça existe encore dans l'orthodoxie, dans l'Église catholique moins, quoique ça reprend dans l'Église catholique. Toute une série de théologiens disaient « l'agapé, la charité, c'est l'Esprit Saint. Il ne faut pas chercher de distinction entre l'agapé et l'Esprit Saint. » Saint Thomas, le premier Saint Thomas, disciple de Pierre Lombard, le dit. Saint Thomas le dit. Et ce n'est que le second Saint Thomas. Oui, alors vous allez dire, oui, il est moins mystique. Hein. Le second Saint Thomas dit, distinguons l'agapé dans le cœur de l'homme et l'Esprit Saint. C'est très beau, ça, de voir que même le premier saint Thomas n'a pas hésité de dire que l'agapé, c'était l'Esprit Saint. L'agapé, par le fait même, est infini, n'est pas créé. L'agapé, vertu, n'est pas vertu. C'est Dieu, c'est l'Esprit Saint. Les orthodoxes, vous savez bien, c'est un des points qu'ils reprochent énormément à l'Église catholique. à la théologie de saint Thomas. Mais ils ont oublié le premier saint Thomas. S'ils avaient regardé le premier saint Thomas, ils auraient dit, tiens, le premier saint Thomas est avec nous. Donc, soyons avec le premier saint Thomas, le our saint Thomas. Alors, soyons avec lui et voyons qu'il dit des choses intéressantes qui sont tout à fait proches de nous. Eh bien, les orthodoxes auront la tendance de dire, ne regardons pas le point de vue de la charité en tant qu'elle est créée. Ça n'a pas d'intérêt, c'est pas la charité, ça. Regardons la charité en tant qu'elle est l'Esprit Saint en nous. Et voyons la manière dont l'Esprit Saint travaille notre âme, nous rend déiformes. Vous voyez, c'est un point très important. Je crois que c'est un des points les plus importants au point de vue de la spiritualité, forcément. Et c'est un des points qui est important de bien saisir la perspective de saint Thomas, la perspective de l'Église catholique, la perspective de l'Église orthodoxe, pour voir que dans cette qu'il y a une possibilité d'entente. Il suffit de se comprendre. Parce que c'est souvent ce qui arrive. Il suffit de se comprendre. Parce que je crois que les saints vivent de la charité. C'est la sainteté qui... C'est la charité, c'est notre sainteté. Mais si je pouvais avoir un petit appareil hein, pour mesurer votre degré de charité, je verrais tout de suite votre degré de sainteté. Nous sommes saints dans la mesure où nous vivons de l'amour. Et nous vivons de l'agapé. Je ne dis pas que nous sommes saints dans la mesure où nous vivons de la foi et d'espérance. Nous sommes saints dans la mesure où nous vivons de la foi et d'espérance en vue de l'amour. Mais c'est la sainteté, c'est l'amour. Et c'est l'amour en nous qui prend tout. Et donc c'est l'Esprit Saint qui en nous prend tout. Oui, ça revient au même. Au point de vue de la sainteté, je peux dire l'un ou l'autre. Je peux dire c'est votre degré de charité ou c'est l'emprise de l'Esprit Saint en vous. C'est la même chose, hein. J'ai le droit d'affirmer les deux. Et en affirmant que c'est votre degré de charité, j'affirme en même temps l'emprise du Saint-Esprit en vous. Les deux se tiennent et les deux ne font qu'un. Et c'est ça notre sainteté. Donc ceci, c'est très important pour vous faire comprendre que ce que nous allons voir, c'est quand même quelque chose de très important. Saint Thomas n'a pas de traité de la sainteté, mais il a un traité de la charité. C'est significatif. Il n'a pas un traité sur la sainteté. Comme saint Thomas parle de l'amour de Dieu, et saint Thomas ne parle pas de la sainteté de Dieu. Saint Thomas ne l'a pas oublié. Mais il sait qu'en théologie scientifique, il doit parler de l'amour et pas de la sainteté. Nous essaierons de comprendre cela. Donc ça, c'est la première chose. Pour vous montrer l'importance de ce traité, il est capital. Dans la lumière de notre vie, de notre foi, de notre espérance, le traité de la charité, c'est ce qu'il y a de primordial en nous. Et donc la moindre petite lumière nouvelle que nous aurons par rapport à ce mystère de la charité va nous aider à exercer davantage la charité. Et donc c'est quelque chose de très important. Et va nous aider à mieux comprendre ce qu'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint en nous. Et le rôle de l'Esprit Saint en nous. La manière dont l'Esprit Saint nous éduque, la manière dont l'Esprit Saint nous conduit. Deuxièmement, place de la charité dans le traité de saint Thomas. Toujours avoir les deux, jouer les deux claviers. L'écriture et saint Thomas. L'écriture en premier lieu, c'est bien évident. Et saint Thomas pour mieux saisir l'écriture. Comme petit serviteur de l'écriture. Comme petit novice du Saint-Esprit. Saint Thomas est un novice du Saint-Esprit. Il aime bien qu'on l'appelle comme ça. C'est un novice du Saint-Esprit, un novice qui est assez intelligent, mais un novice du Saint-Esprit qui essaie de comprendre toute la richesse et toute la plénitude de l'Écriture. Et donc, quand on se met à son école, on devient novice du Saint-Esprit pour mieux comprendre ce que c'est que l'Écriture. Saint Thomas sait très bien que la somme théologique qu'il nous donne, c'est quelque chose de nouveau qu'il introduit dans l'Église. Il le sait. Et ça, c'est son humilité. Jusque-là, on est en présence de la doctrina sacra. Et la doctrina sacra implique un lien entre le point de vue mystique, le point de vue exégétique, le point de vue historique, le point de vue spirituel et intérieur. Tout est lié. Et je dirais, il ne faut pas l'oublier, que chez les orthodoxes, au fond, le cap particulier de saint Thomas n'a jamais été franchi. Je crois que c'est très très important pour comprendre les orthodoxes. Saint Thomas représente dans l'Église quelque chose de nouveau. Ça aurait pu très bien ne pas exister. Hein. Alors on pourrait se demander pourquoi le Saint-Esprit a-t-il voulu qu'il y ait un saint comme Saint Thomas, si difficile à comprendre et tellement critiqué. Alors pourquoi le Saint-Esprit a-t-il voulu ça? Parce que le Saint-Esprit ne veut pas, par définition, des œuvres difficiles. Si le Saint-Esprit était l'artisan des choses difficiles, il aurait bien réussi en Saint Thomas, ça, admirablement réussi. Il aurait fait un saint extraordinairement, un stylite de l'intelligence. Les stylites, on voit très bien, n'est-ce pas, c'est pas si commode que ça, de faire un stylite, n'est-ce pas, de notre temps, soyez des stylites. Hein, et alors on voit un tout petit peu que Saint Thomas, c'est le stylite de l'intelligence, c'est une chose assez extraordinaire. Mais très difficile à comprendre, très difficile à comprendre, et terriblement critiquable par le fait même. Alors pourquoi le Saint-Esprit a-t-il voulu, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il voulu qu'il y ait un saint Thomas? Moi je me pose de temps en temps la question, c'est normal. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il voulu qu'il y ait un saint Thomas? Je crois, c'est pour que l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus fondamental, soit donnée à Dieu par la foi. C'est pour nous faire comprendre que la foi est une lumière divine qui n'est rivale en rien de la lumière humaine, de la lumière de l'intelligence humaine. Et de faire comprendre que la foi est capable d'assumer l'intelligence humaine dans ses plus grandes profondeurs. Donc une fois qu'on a compris ça, on ne peut plus critiquer saint Thomas. On dit tout simplement, mais oui, j'ai pas compris. C'est souvent ce que je dis à des étudiants qui ne comprennent pas. Je dis, vous n'avez pas assez de foi, vous n'êtes pas assez intelligent. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. Alors à ce moment-là, ils ne peuvent plus rien dire, n'est-ce pas? Parce que c'est, vous n'avez pas assez de foi et vous n'êtes pas assez intelligent. Si on avait la foi de saint Thomas, et si on avait, et c'est pour ça qu'il s'appelle Thomas, il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas? C'est la reprise de l'autre Thomas qui a manqué de foi. Alors il faut que la foi soit plénière en lui et que l'intelligence aille jusqu'au bout. Alors à ce moment-là, les deux vont former cette somme théologique, qui est une très belle dissertation pour Dieu. Un petit travail du novice, un petit travail qui a duré, qui a été offert à Dieu et qui a duré. Alors le souci de saint Thomas, c'est d'essayer donc de montrer comment l'intelligence humaine peut être totalement offerte à Dieu, en comprenant très bien que son effort d'une théologie scientifique n'a pas d'autre sens que cela. La foi par elle-même n'est pas scientifique. Et donc c'est contradictoire de vouloir une théologie scientifique, puisque la foi n'est pas scientifique. Et pourtant, saint Thomas, sous la mouvance du Saint-Esprit et dans la prière, veut faire une théologie scientifique. Et il le sait que la foi n'est pas scientifique, il le dit. Alors pourquoi veut-il ça? C'est pour l'homme. C'est pas pour la foi, c'est pour l'homme. C'est pour que l'intelligence humaine soit totalement transformée par la foi. Vous voyez, il a labouré le champ. Vous voyez, on pourrait dire, vous voyez, comme les moines cisterciens qui allaient exprès dans les lieux où il y avait du paludisme, où il y avait des mauvaises mouches, qui vous piquait et puis qui essayait de rendre le terrain salubre. Hein. On voit ça du côté, c'est plusieurs endroits. Regardez ça du côté de Lyon, on voit bien. C'est la Notre-Dame des Dombes, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de cadavres qui sont tombés là et que grâce aux moines, les mouches ont disparu. Parce que le dominium sur les moustiques s'est accompli par les moines, n'est-ce pas? Allez, ne piquez plus. Et grâce à leur travail. La signification du travail de la vie monastique, c'est ça. C'est d'enlever ce terrain de paludisme pour mettre autre chose. Alors, aujourd'hui, c'est le paludisme spirituel. Alors, n'oubliez pas ça quand vous travaillez à votre monastère. Vous luttez contre le paludisme spirituel pour essayer de construire un lieu qui soit saint. Alors ici, c'est pas seulement saint et saïen, mais de la sainteté de l'intelligence et du cœur. C'est très curieux, c'est ça le travail des moines. Hein, c'est de créer des lieux de sainteté. Créer des lieux de sainteté. Des lieux où, de fait, le paludisme spirituel n'entre pas. C'est peut-être pour ça que vous voulez que ce soit sur la montagne de la montagne sainte, notre montagne sainte, celle de Saint-Bruno. Il y a des lieux comme ça. Dieu n'est pas indifférent aux lieux. Dieu n'est pas indifférent au temps. Alors créer cela, c'est important de comprendre que, de fait, la vie monastique a lutté contre le paludisme temporel. Ils ont lutté, et c'était les premiers moines, ils ont fait ce travail. Saint Thomas a lutté contre le paludisme de l'intelligence. Et vous, vous luttez contre le paludisme du cœur. Vous voyez, progressivement. Il y a une espèce de progression assez curieuse et assez intéressante à voir. C'est pas étonnant. Alors, il faut essayer de comprendre que, de fait, ce travail de Saint Thomas, qui est un travail héroïque, hein, c'est pas du ciment, mais c'est quelque chose. Ça tient mieux que le ciment, parce que votre ciment ne tiendra pas aussi longtemps. Non, ça tient mieux que le ciment. C'est quelque chose qui demeure, très très fort, très profond. Il a lutté contre le paludisme intellectuel, c'est-à-dire il a lutté contre tout ce qui venait diminuer l'intelligence. Diminuer l'intelligence au service de Dieu. Dès qu'il y a une petite maladie, immédiatement, on ne peut plus offrir la bête à Dieu en holocauste. Hein. Il fallait des animaux purs, sans tache. Hein, c'est dit dans l'Ancien Testament. Il ne faut jamais oublier ça. C'est ces animaux sans tache qu'on les offre à Dieu. Une intelligence ne peut être vraiment offerte à Dieu que c'est les sans tache. Et au fond, un corps ne peut être offert à Dieu que c'est les sans tache. C'est pour ça qu'on lutte contre le paludisme. Un cœur ne peut être offert à Dieu que s'il est pur, que s'il est limpide, sans tache. Autrement, il ne peut pas être pleinement offert. Vous voyez, c'est le bouc émissaire. Alors, je sais bien, Jésus a fait la synthèse entre les deux. C'est sûr, elle a été le bouc émissaire et le bouc émissaire a été l'agneau sans tache. Mais nous, nous tendons toujours à redécouvrir cet agneau sans tache en nous, en acceptant le bouc émissaire présent, pour que tout soit offert à Dieu. Eh bien, je crois que l'effort de saint Thomas, c'est cela. C'est d'offrir une intelligence toute pure à Dieu. Et une intelligence qui va le plus loin possible dans son rôle d'intelligence. C'est pour ça que saint Thomas définit l'intelligence intus legere, c'est-à-dire lire de l'intérieur. C'est ça, je crois, pour saint Thomas, le propre de l'intelligence. C'est cette lecture intérieure. Par nos sensations, nous lisons de l'extérieur. Ne jugez pas selon les apparences. Jugez en toute vérité. Quand Jésus dit ça, il nous dit qu'il faut avoir une intus legere. Il faut avoir une lecture intérieure des choses. Or, la première lecture intérieure des choses que nous avons, c'est par l'intelligence. La seconde, c'est par l'Esprit Saint. Et la première, c'est par l'intelligence. Notre intelligence lit de l'intérieur. Elle lit de l'intérieur pour essayer de comprendre la parole de Dieu, non pas de l'extérieur, non pas d'une manière sociologique. Toute lecture sociologique est extérieure. Toute lecture psychologique est extérieure. Toute lecture historique est extérieure. Toute lecture politique est extérieure. Il faut lire de l'intérieur. Lire la parole de Dieu de l'intérieur, c'est d'essayer d'en extraire la substance, la moelle, comme dit Catherine de Sienne, en extraire la moelle. C'est-à-dire découvrir profondément les intentions profondes de Dieu. Eh bien, le souci de saint Thomas, c'est cela, dans sa théologie scientifique. C'est d'essayer de mettre son intelligence au service de la parole de Dieu, au service de la foi, pour découvrir que l'Écriture est un enseignement. Que Dieu nous enseigne, et donc que Dieu veut éduquer notre intelligence. Saint Thomas dit cette chose très simple, où on voit très bien qu'il l'a bien compris, c'est dans son commentaire sur l'évangile de Saint Jean, « Un maître aime toujours mieux des disciples intelligents. » Alors, on comprend ce que ça veut dire. Dieu veut que nous soyons intelligents pour lui. Et être intelligent pour lui, c'est justement comprendre de l'intérieur. Et ne pas s'arrêter à l'extérieur. Et donc saint Thomas va mettre tout son effort, on peut dire que tout l'effort de sa vie aboutit à la somme. Tout l'effort aboutit à la somme, c'est-à-dire aboutit à cette étude d'une théologie scientifique qui, pour lui, est une étude très particulière. Vous voyez, je dis ça, c'est parce que c'est particulièrement important par rapport à la charité. de dire ça. C'est particulier. Autrement, on se scandalise. Alors, il faut bien le comprendre. Comprenons que saint Thomas considère que cet effort qu'il fait n'est pas adéquat à la doctrina sacra. Donc, comprenez bien. Saint Thomas est en face d'une tradition. Et la tradition nous donne la doctrina sacra. C'est comme ça qu'il l'appelle. La doctrina sacra, pour saint Thomas, c'est, je dirais, toute la grande tradition théologique des pères de l'Église. Les pères de l'Église nous donnent la doctrina sacra. Et ça continue jusque nous. La doctrina sacra demeure. Ça, c'est toute la grande théologie des pères de l'Église. Dans la doctrina sacra, saint Thomas va préciser théologie scientifique. Comprenons bien. Théologie scientifique. C'est à l'intérieur de la doctrina sacra un effort de purification plus grand de l'intelligence pour être offert à Dieu. C'est le nous. C'est le nous, l'intelligence, dans toute sa pureté, qui est mise au service de la foi pour que dans la doctrina sacra, il nous donne ce qu'il y a de plus intelligible dans la parole de Dieu. C'est cet effort-là qu'il fait, sachant très bien qu'il ne faut surtout pas mettre doctrina sacra égale théologie scientifique. Ça, c'est la base scolastique, c'est-à-dire les disciples de saint Thomas qui ont trahi le maître. Pour des quantités d'itomistes aujourd'hui, on dit que la théologie scientifique égale la doctrina sacra chez saint Thomas, ce qui est tout à fait faux. Saint Thomas reconnaît qu'à côté de la théologie scientifique, il doit y avoir une théologie mystique. Il le dit lui-même. Et les grands disciples de saint Thomas du XVIe siècle l'ont dit, que la théologie scientifique de saint Thomas n'est pas adéquate à la doctrina sacra. Mais ce que saint Thomas fait, c'est, vous voyez, creuser un aspect très particulier à l'intérieur de la doctrina sacra pour nous montrer le point de vue de l'intelligibilité. C'est ce que nous allons bien préciser. Tandis que la théologie mystique, saint Thomas nous dit, elle se sert du symbole. Oui, dans la doctrina sacra, on ne peut pas discerner souvent ce que représentent les analogies propres et les analogies métaphoriques. Les pères de l'Église vont de l'un à l'autre. Le souci de saint Thomas, c'est de préciser par cette théologie scientifique la différence entre les analogies propres et les analogies métaphoriques. C'est le souci de la théologie scientifique. Alors évidemment, il faut bien comprendre ce que c'est qu'analogie propre et analogie scientifique, analogie métaphorique. Je vous en donne un exemple. Quand dans l'Écriture, Jésus, on parle du Christ en disant qu'il est la tête du corps mystique, est-ce que vous êtes en face d'une analogie propre ou d'une analogie métaphorique? Point d'interrogation. Si je faisais passer un examen, j'aurais des oui et des non. Quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », est-ce que vous êtes en face d'une analogie propre ou d'une analogie métaphorique? C'est important pour comprendre la parole, si on veut la comprendre pleinement. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », est-ce une analogie propre ou une analogie métaphorique? Au niveau de la doctrina sacra, quand vous regardez les pères de l'Église, ne se pose pas la question. C'est très curieux. Comment saint Thomas s'est-il posé la question? Ah, il s'est posé la question en se servant de la philosophie. Et en se servant d'une philosophie première, une métaphysique réaliste. Où il a voulu alors préciser exactement les analogies propres grâce à ça. Mais c'est dans la lumière de la foi, c'est pas la philosophie qui juge l'écriture. Hein. C'est la philosophie au service de la foi qui va me permettre de discerner les analogies propres et les analogies métaphoriques. Ça n'a l'air de rien. C'est très important, parce qu'alors ça fait mieux comprendre la valeur du symbole. En définitive, on comprend mieux ce que c'est que le symbole quand on comprend mieux ce que c'est que les analogies propres. Et alors tout l'effort de saint Thomas devrait se terminer dans une théologie mystique, une théologie symbolique, qui revient alors beaucoup plus à la doctrina sacra. Bon, cet effort de saint Thomas, il l'appelle théologie scientifique. Pourquoi ? Scientifique dans le sens aristotélicien. C'est aussi un des grands griefs. Hein? Un des grands griefs. Aristotélicien, c'est-à-dire, la science, c'est la connaissance qui se fait par les causes. Ce n'est pas une science descriptive. Je peux avoir une science descriptive. Hein. Eh bien, la science descriptive, elle ne se fait pas par la connaissance des causes. Donc, c'est une connaissance qui implique une analyse. Alors, saint Thomas précise tout de suite, la théologie scientifique ne cherche pas le quid de Dieu. Le quid, hein, traduisez, le tiesti, c'est-à-dire, traduction grecque, hein. Non, c'est pour vous, ça va savoir beaucoup mieux. Non, le quid, le tiesti. Le tiesti, c'est-à-dire ce qu'est Dieu. Je ne peux pas connaître les principes propres de Dieu. Je ne sais pas ce qu'est Dieu en lui-même. Mais cette science, théologie scientifique, cherche le quomodo, le comment. Elle cherche le pose, le comment. Pourquoi ? Parce que c'est une théologie scientifique qui est subalternée à la science des saints. Alors c'est ça qui est très important, parce que c'est par là que je comprends que cette théologie scientifique est la même que la doctrina sacra. La doctrina sacra, elle est en vue de la vision béatifique. Quel est le premier qui commande tout? C'est le Christ dans sa vision béatifique. Toute l'écriture doit se lire dans la lumière de la vision béatifique du Christ. Toute l'écriture doit se lire dans la lumière de la vision béatifique du Christ. C'est lui qui a la lumière parfaite de toute l'écriture. Dans son intelligence humaine, transformée par le lumen de gloire. C'est le Christ en tant qu'homme, hein? C'est le Christ en tant que grand prêtre, en tant que prophète, en tant que rabbi, en tant que maître. C'est la vision béatifique du Christ. Toute la doctrina sacra des pères de l'Église est dans la lumière, dans l'influence de la vision béatifique du Christ. Et la théologie scientifique de saint Thomas demeure, elle aussi, dans cette dépendance. Science subalternée à la vision des saints, c'est-à-dire à la vision du Christ. Donc la théologie scientifique de saint Thomas est subalternée à la vision béatifique du Christ. Ça, c'est très important. C'est ce que les théologiens d'aujourd'hui n'acceptent plus. Parce qu'ils voudraient que la théologie, beaucoup, je ne dis pas tous les théologiens, n'est-ce pas, mais beaucoup de théologiens d'aujourd'hui n'acceptent plus, parce qu'ils voudraient que la théologie soit une science semblable aux autres sciences. Mais quand la théologie se développe en faculté, dans les universités, c'est le danger qu'on louche. Alors on regarde les autres facultés font des doctorats scientifiques, il faut donc faire des doctorats scientifiques avec les mêmes critères scientifiques. Or les critères scientifiques de la théologie scientifique ne sont pas les mêmes que les critères scientifiques des mathématiques, de la physique, de l'histoire, et ainsi de suite. Ce sont d'autres critères scientifiques, parce que c'est une autre science. Et on le voit tout de suite, dès qu'on comprend que la théologie scientifique, comme la doctrina sacra, dont elle est issue, voyez, provient de la vision béatifique. Voyez, on pourrait dire ça, si j'essayais de voir les générations. Je dirais que la source, c'est la vision béatifique du Christ. Ça, c'est la source. Ici, on est en face du fils aîné. Le fils aîné, la doctrina sacra. Et là, du petit-fils. Que vous compreniez mieux. C'est le petit-fils. La théologie scientifique de saint Thomas, c'est le petit-fils. Et c'est vrai, c'est le petit-fils, comparativement, parce qu'elle est imprégnée de la doctrina sacra, mais elle dit autre chose que la doctrina sacra, et elle est directement dans la dépendance de la vision béatifique. C'est pour ça que, d'une certaine manière, elle est plus proche de la vision béatifique que la doctrina sacra. Les petits-fils, ça saute une génération, vous savez bien. Mais il faut faire attention. Il faut qu'en même temps, ils soient toujours enveloppés de la doctrina sacra.
est toujours enveloppée. Et c'est vrai, quand on est attentif à saint Thomas, on comprend que d'une certaine manière, ce que saint Thomas nous dit dans cette théologie scientifique est d'une limpidité beaucoup plus grande que des quantités de choses qu'on trouve chez les pères de l'Église, qui sont très belles au point de vue langage scientifique, mais qui n'ont pas la même limpidité. Il y a quelque chose qui fait que la lumière de la vision béatifique du Christ est présente dans la théologie scientifique de saint Thomas d'une façon très unique. Il suffit de lire quelquefois un article de saint Thomas pour... Oh, c'est merveilleux. On est tout proche de la vision béatifique. Tout proche, vous voyez bien. Hein, c'est très loin, parce que c'est l'obscurité complète. Mais c'est quand même très, très proche, parce que c'est dans cette lumière-là. Petite fille de la vision béatifique de Jésus. C'est comme ça qu'il faudrait appeler la théologie scientifique de saint Thomas. Petite fille de la vision béatifique du Christ. Alors ça devient très beau, ça. Ça devient quelque chose de merveilleux. Vous voyez, c'est vrai, ça, toute la fragilité du petit-fils. Fragilité et précarité du petit-fils. Et en même temps, la noblesse. Et cette noblesse-là, c'est dans la lumière de la vision béatifique. Si vous ne lisez pas saint Thomas dans la lumière de la vision béatifique, vous n'y voyez rien du tout. La doctrina sacra nous conduit à l'écriture directement. L'écriture est présente dans la doctrina sacra, l'écriture est présente dans la théologie scientifique. Et l'écriture, c'est justement ce qui est donné en premier lieu par rapport à cette vision biblique. On peut dire que c'est l'enseignement du Christ. Tout l'enseignement des prophètes conduit à l'enseignement du Christ. Et l'enseignement du Christ est dans la lumière directe de sa vision biblique. Nous vous enseignons ce que nous avons vu. Jésus dit ça à Nicodème. Et là, on voit bien que c'est directement dans la lumière de la vision béatifique qu'il nous donne son enseignement. Et tous les autres enseignements cumulent dans l'enseignement du Christ. La doctrina sacra des pères, des théologiens, des pères de l'Église et des grands théologiens sont là pour nous faire comprendre toute l'extension des l'Écriture. Et la théologie scientifique va préciser l'intelligibilité de cela. Donc, cette théologie scientifique ne peut se comprendre que dans la subalternation de la vision béatifique du Christ, à l'intérieur de la doctrina sacra. Alors, continuons. Encore 3 minutes, hein, parce qu'il faut ponctuer le temps exactement. Hein. Encore 3 minutes. Alors, comprenons bien que cette doctrina sacra va essayer de donner un ordre de sagesse. Et ça, saint Thomas y tient beaucoup. Un ordre de sagesse. Cet ordre de sagesse, c'est d'essayer de donner de la manière la plus proche des exigences de notre intelligence humaine, l'ordre que Jésus nous donne dans son enseignement. Et c'est pour ça que, de fait, nous découvrons cet ordre particulier dans la somme. Alors, je vous le rappelle, prima pars. C'est le mystère de Dieu dans son unité, dans sa trinité et la création. La secunda, c'est le retour de l'image vers Dieu. Et dans la secunda, il y a 2 parties. Première partie, les choses prises en général, fondamentalement. Et dans la secunda partie, les choses prises en particulier. Le retour de l'image à Dieu. Et dans la tertia, le mystère du Christ. Voyez bien, cet ordre est un ordre scientifique, c'est pas du tout un ordre pratique. C'est un ordre contemplatif. Quand je dis scientifique, je veux dire contemplatif. C'est un ordre contemplatif. D'un point de vue contemplatif, vous regardez en premier lieu Dieu. Et vous regardez Dieu comme créateur dans son unité, vous le regardez dans sa fécondité. C'est ça que vous regardez en premier lieu. Dans un point de vue contemplatif, vous voyez bien que l'image de Dieu qui est en vous est faite pour Dieu. Dans un ordre contemplatif, vous savez bien, il y a des blessures, c'est le Christ, c'est la miséricorde. C'est le Christ miséricordieux qui nous enveloppe. Et c'est le Christ et c'est l'Église. Le Christ et les sacrements qui enveloppent toutes nos blessures pour nous reconduire vers Dieu. Donc c'est un ordre contemplatif, hein, faut pas dire, c'est un ordre scientifique contemplatif qui nous aide à comprendre le mystère de la révélation. Le mystère de Dieu en premier lieu, la révélation nous parle de Dieu, vous voyez. Il faut être dans notre monde d'aujourd'hui pour dire « Ah non, il faut regarder d'abord l'homme ». Mais pas du tout, au point de vue de la foi, vous regardez d'abord Dieu. La foi n'est pas indispensable pour regarder l'homme. Hein. Tandis que la foi est indispensable pour regarder Dieu. Alors quand vous regardez l'homme en premier lieu, au bout d'un certain temps, vous oubliez de regarder Dieu et vous perdez la foi. Et vous avez le regard d'égoïme. Vous avez le regard des étrangers, de tous ceux qui sont les qui n'en regardent plus Dieu. Et parce que vous voulez faire comme eux. Alors au bout d'un certain temps, vous perdez le sens du croyant. Et le sens du croyant, c'est de regarder Dieu. Et de regarder la transcendance de Dieu en premier lieu. C'est pour ça que c'est bon, la somme théologique. Ça nous rectifie parce que ça nous oblige de nous mettre dans la vision béatifique du Christ. Nous mettre dans la vision béatifique du Christ, c'est quand même ça notre contemplation. Nous ne pouvons contempler que enveloppé du Christ et enveloppé de sa vision béatifique. Alors, dans cet ordre, voilà où apparaît la charité. La charité apparaît ici. Vous voyez, la charité apparaît là. Voilà, voyez tous. C'est-à-dire qu'elle apparaît au point de départ de la secunda secundae. Dans la seconde partie du retour vers Dieu. Alors, elle est présente dans le premier moment du retour vers Dieu, c'est bien évident. Je ne peux pas retourner vers Dieu sans la charité. Mais, explicitement, on la donne dans la secunda secundae. Et on la donne après la foi et l'espérance. Parce qu'elle présuppose la foi et l'espérance. Donc, vous voyez où elle se situe. Elle se situe dans une partie de la somme, dans l'ordre de la somme. Elle se situe comme une partie. Une partie très importante, c'est la clé du retour vers Dieu. Je retourne vers Dieu par la charité. Et plus j'aime, plus je suis proche du retour vers Dieu. Et nous verrons du reste comment dans la charité, ce retour est actuel. Je suis déjà présent dans ma fin et je tends vers ma fin. C'est le propre de la charité. Alors, vous comprenez bien qu'il faut situer la charité au milieu, donc au terme des vertus théologales, et au point de départ de toutes les autres vertus. La charité va régner sur toutes les autres vertus. Et elle va permettre progressivement de faire que je sois transformé par la grâce et par l'Esprit Saint. Je m'arrête maintenant, parce qu'il faut respecter, ponctuer le rythme. Et on reprend dans 10 minutes.